Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle l'éternel féminin, la féminité.
Simone de Beauvoir disait « compétence et intelligence, deux mots sans sexe ». Elles sont au sommet du savoir et pourtant les femmes ont toujours du mal à le faire savoir. Manque d'audace, de confiance en soi, sentiment d'illégitimité et parfois, il faut bien l'avouer, femmes oubliées. Je m'appelle Christelle Chiroux et je me bats pour aller les chercher. Elles sont scientifiques, médecins, économistes, sportives, avocates ou historiennes. Elles sont là et bien là. Elles ont des parcours impressionnants et passionnants. J'ai décidé dans ce podcast d'amplifier leur voix. À les écouter, vous ne pourrez plus les oublier. Bienvenue dans Expertes à la Une. Rencontre au cœur de Paris avec une chasseuse de tête. Une femme engagée, solaire, animée d'une énergie XXL. Lucile Desjonquières se bat pour favoriser la mixité dans les entreprises et la parité au sein des instances de gouvernance. Je la retrouve dans un lieu qui lui ressemble. Une ancienne imprimerie d'une grande maison d'édition, aménagée façon loft new-yorkais, un grand espace singulier de partage et de coworking, le nouveau bureau de travail de Lucile Desjonquières. Lucile Desjonquières, merci de me recevoir donc dans vos bureaux à Paris. Vous avez plusieurs casquettes, vous êtes entrepreneur, chasseuse de tête, vous cherchez des profils de femmes pour les instances de gouvernance des entreprises, vous êtes également présidente d'un réseau féminin, vous êtes une experte, je dirais, du recrutement. C'est quoi la définition de l'experte pour vous ?
Alors, c'est une bonne question. C'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance d'un sujet, pas uniquement appris dans les livres, mais appris sur le terrain, et qui a pu observer ce qu'il y a de déséquilibré, d'inégal, et à ce moment-là, où on constate, où on agit pour essayer de faire avancer ce qui nous semble injuste. Et je me mettrai dans ce cas de figure, ce qui m'a un petit peu surprise moi-même d'ailleurs, parce que je n'étais pas du tout engagée de prime abord, ni particulièrement féministe. Mais au sein de mon cabinet, quand on a vu cette loi Copé-Zimmermann émerger, et là on était en 2013, donc elle était effective depuis 2011, nous nous sommes dit en tant que chasseurs de tête que nous étions légitimes pour aller identifier sous le plafond de verre toutes les femmes méconnues et éligibles pour des boards, les recevoir, valider leur motivation et évidemment leurs compétences et faire savoir que nous avions cette base de données et être le lien entre l'offre et la demande. Voilà, tout est parti de là.
Avant de revenir à votre parcours professionnel, moi j'ai envie de savoir qui était Lucile Desjonquières quand elle était petite.
Ah, si vous m'aviez dit à ce moment-là que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui, je vous aurais dit, mais même pas en rêve. J'étais une petite fille timide, assez sage, qui était très gaie déjà, très, très enjouée, très... élevée dans une famille à la fois catholique et juive, donc j'ai eu la double culture, très croyante, et ça je le souligne parce que ça continue de me porter aujourd'hui. Et puis un parcours sans faute, l'école, des amis, et puis toujours cette joie de vivre qui m'habitait. Et puis je suis tombée dans le marketing un peu par hasard et j'ai rejoint une entreprise familiale où j'ai pu avoir une carrière très intéressante en même temps que d'élever trois filles que j'ai eues en 5 ans.
Vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique.
Alors ça, c'était mon parcours marketing. C'est-à-dire que dans l'industrie pharmaceutique, j'étais en charge d'une gamme de produits de médication familiale, c'est-à-dire ce sont des produits OTC, over the counter, où on n'a pas besoin de prescription. Donc à l'époque, on va dire que tout ce qui était réglementaire était beaucoup plus light qu'aujourd'hui et on pouvait faire de la publicité grand public assez facilement. C'est beaucoup moins le cas à cette date et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire du marketing pendant 15 ans pour des produits de médication familiale. Voilà. Et puis un jour, je quitte cette entreprise, je retourne dans une autre, et là, je découvre ce que c'est qu'un président difficile. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des présidents difficiles et des personnes qui supportent d'avoir un patron qui va vous humilier, qui ne va pas respecter vos horaires, qui va être, moi je le mets dans la catégorie, on entend beaucoup parler en ce moment, mais pervers narcissique. Et là, il n'y a qu'une chose à faire avec ce genre d'individu, you take your legs and run, vous fermez la porte et, parce que vous ne pouvez pas les changer. Et vous partez en courant parce que vous sauvez votre peau, et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il faut savoir que ce type de personnalité n'a qu'une envie, c'est de vous détruire. Et il s'attaque à des femmes fortes. Et donc, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui à des personnes, hommes comme femmes, qui se heurtent à ce type de personnalité, eh bien, il faut s'en séparer le plus vite possible. Voilà, donc je quitte très vite ce président. Et là, j'allais chercher un job et mon mari crée un cabinet de chasse de tête. Et il me dit, écoute, au lieu de chercher un job, viens m'aider à créer ce cabinet, puis tu repartiras après. On était dans de la logistique pure, là. Et finalement, il y avait pas mal de travail. Il m'a confié plusieurs tâches et de plus en plus. Et puis finalement, je ne suis jamais partie parce que l'humain m'a passionné beaucoup plus que les produits. Et que l'humain, on n'en fait jamais le tour. Et c'est passionnant. Et je dis souvent qu'il y a le métier que vous avez et puis ce que vous en faites. Et donc, pendant quelques années, j'ai fait ce métier classiquement avec des clients, des candidats et des missions. Et puis, j'ai voulu y mettre du sens. Et c'est en créant donc ce deuxième cabinet, où là, on était en pleine loi Copé-Zimmermann, que l'idée est venue que ce sens serait les femmes. Et au début, donc on a créé Femmes au cœur des conseils. Avec
donc là, on est à peu près en 2011, au moment
où la loi... On est en 2012, oui, c'est ça. Au moment où la loi va être effective en 2017, donc on est encore loin, mais où les sociétés commencent à se préparer. Et donc, nous, on se dit, on va avoir cette base de données, on va le faire savoir. Et les clients vont venir nous manger dans la main en disant, chouette, enfin, un cabinet qui a compris qu'il fallait nous aider à féminiser qualitativement nos conseils d'administration. Et ben, en fait, ce n'était pas si simple. D'abord parce que c'est beaucoup de cooptation au niveau du SBF 120. Et c'est surtout le SBF 120 qui a vraiment été très, très bon élève au niveau de la féminisation de leurs conseils. Et qu'au-delà du SBF 120, comme vous le savez, les autres sociétés cotées sont également impactées, mais elles sont, elles, plus près aujourd'hui de 24%. On est encore loin des 40%. Et vous avez les SA qui sont concernées, hein, les non-cotées, par la loi Copé-Zimmermann, qui elles aussi sont loin du compte. Et ensuite, on a les SAS, donc les sociétés actions simplifiées, qui, elles, ne sont pas impactées par la loi Copé-Zimmermann, mais qui devraient l'être à court ou moyen terme, puisque Bruno Le Maire a décidé, mais ça a été reculé avec cette crise sanitaire que nous traversons, qu'un jour, il n'y a aucune raison que ces sociétés, qui peuvent aller jusqu'à un chiffre d'affaires extrêmement important, ne soient pas assujetties à la féminisation de leur conseil d'administration.
Donc vous avez créé la structure Femmes au cœur des conseils, donc vous avez accompagné, vous êtes allé chercher des femmes pour pouvoir les proposer aux entreprises.
C'est ça, on est allé les chercher. Et alors, c'est en recevant les 50 premières que je suis devenue complètement engagée. C'est-à-dire que j'ai vraiment conscientiser et réaliser en parlant avec elle, et j'avais pas l'habitude d'avoir des femmes de ce niveau-là dans mes missions précédentes, de leurs compétences, de leur force, leur intelligence, de la souffrance qu'elles vivaient au quotidien pour exister, émerger, être respectées. Et ce qui m'a énormément touchée, je crois que c'est ça qui m'a fait basculer, c'est le manque de confiance en elles. Malgré ces carrières hallucinantes qu'elles ont, il y a toujours ce doute qui sommeille au fond d'elles-mêmes. Pourquoi ? Alors on va vous dire, c'est éducatif, c'est culturel, c'est ceci, c'est cela. Mais ça, c'est vraiment un travers que nous avons, nous les femmes, à ne pas avoir suffisamment confiance en nous. Et c'est vraiment un sujet sur lequel il faut avancer, parce que les hommes ont confiance en eux, et ils ont raison. Et de ce fait, ils osent aller sortir de leur zone de confort et faire preuve d'audace. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on enseigne dans les formations de leadership au féminin. Maintenant, j'entendais Brigitte Grésy l'autre jour qui disait il faut arrêter de faire culpabiliser les femmes sous cet aspect-là. Elle a raison aussi. Il faut arrêter de les faire culpabiliser. Mais bon, il faut les encourager à moins douter d'elles-mêmes. Elles savent aussi qu'elles sont attendues au tournant. Je crois François Giraud qui disait que le jour où on mettra à des postes importants des femmes incompétentes, on arrivera à une véritable égalité des genres. Donc ça veut tout dire. Et les femmes ont cette capacité à se mettre la pression à une fois qu'elles ont la fonction et à faire fi de leur santé, d'un corps qui peut justement les lâcher à un moment donné parce qu'elles vont aller le plus loin possible, tout en s'occupant de leurs enfants, tout en s'occupant de leurs époux, tout en s'occupant de leurs parents, voire de leurs beaux-parents. Enfin, nous sommes multitâches. Et la générosité de cette femme, de ces femmes là, que j'ai pu observer, m'a énormément touchée.
Et qu'est-ce que vous leur avez apporté? Comment les avez-vous accompagnées alors?
Alors déjà, ma vocation, vraiment mon désir profond, était de leur trouver des mandats. Elles n'avaient pas vocation d'être VRP d'elles-mêmes. Parce que c'est pas leur rôle. Donc moi je souhaitais qu'elles soient appelées et je souhaitais pouvoir produire leur CV auprès de dirigeants qui avaient besoin d'elles. Donc c'est ce qu'on s'est employé à faire et on a même été jusqu'à aller chercher des cadres au chômage, hommes comme femmes. Donc moi j'ai eu un accord avec la NPE qui eux prenaient leur bâton de pèlerin, allaient voir les entreprises qu'ils connaissaient, puisqu'ils avaient eu des fonctions importantes. Et il y avait un effet qui se coule, et c'était un écho, si vous voulez, assez vertueux, dans la mesure où ils venaient voir des personnes, des dirigeants, pour leur parler de ces femmes que nous pouvions leur présenter, tout en se présentant eux-mêmes, sans avoir cette casquette de chômeur. Vous voyez ? Donc, ils avaient quelque chose à raconter, ils avaient un service à apporter à cette entreprise. Donc, on est vraiment passé par plusieurs chemins pour essayer d'obtenir des mandats. On en a eu, mais je ne vais pas vous mentir, à l'époque, on n'en a pas eu beaucoup. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça que de décrocher des mandats dans les conseils d'administration, surtout quand ils n'appliquent pas la loi. Et aujourd'hui, on sait, les sanctions ne sont pas appliquées non plus.
Alors, vous en avez fourni, par exemple, aux entreprises du CAC 40 ?
Non, nous, on était plutôt dans les ETI. Le CAC 40 fonctionne ou avec des très grands cabinets de la place. Parce que ça les rassure, et certainement qu'ils font un très bon travail, mais beaucoup de cooptation. C'est comme ils se connaissent entre eux et autres. Donc nous, ça a plutôt été des mandats dans des ETI. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mandats, et ça me fait très plaisir, tant auprès des fonds d'investissement. Pourquoi ? Parce que les fonds d'investissement ont signé une charte, la charte de France Invest, et elles sont pour quasiment toutes membres de France Invest, qui les engage à féminiser ces fonds, leur board et également leur comité de direction, enfin, mais aussi les sociétés dans lesquelles ils mettent des participations. Donc là, ça veut dire que c'est la multiplication des petits pains. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc, je vais les voir, tous ces fonds d'investissement. J'ai interviewé beaucoup de présidents qui ont la volonté de féminiser leurs équipes, parce que moi, je ne suis pas pour le name-dropping, je suis pour mettre en valeur les hommes qui font les choses bien. Et surtout rassembler les hommes autour de nous, ce n'est pas un combat de femmes contre les hommes, c'est vraiment un rassemblement des genres pour agir ensemble pour de la performance.
Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'en 10 ans, on va dire, on est en 2021, donc depuis 2011-2012, ça évolue et que ça évolue assez vite ou pas encore assez?
Non. Ça évolue pas assez vite du tout. Alors, il y a quelque chose qui joue en notre faveur, c'est la RSE. Puisque aujourd'hui, la parité fait partie de la diversité, donc de la RSE. Et que le sujet de femme est devenu un vrai sujet pour les entreprises. Donc j'ai envie de vous dire que ça, c'est encore plus puissant que les quotas. Puisqu'une société, surtout avec cette génération YZ qui est très en attente de sens, les entreprises, si elles veulent les capter, parce qu'on sait que cette génération Z est très volatile, et si vous ne lui apportez pas le sens qu'elle recherche, ils vont se partir tout simplement, puis aller ailleurs. Donc si vous voulez des bons éléments et qui restent longtemps voilà, pour s'imprégner de l'entreprise et progresser avec elle, ben, il faut répondre à cette quête de sens. Et cette quête de sens, ça va être la diversité, ça va être les congés paternité qui sont appliqués, ça va être l'égalité salariale, mais ça, Muriel Pénicaud s'en est bien occupée, on le remercie, et ça va être la possibilité de identifier des hauts potentiels féminins, de les mener le plus possible vers des postes de direction et on les sait vers des COMEX. Ça, c'est un travail de longue haleine et de préparation et d'anticipation.
C'est un nouveau chantier pour vous, les COMEX?
Oui. Alors, c'est un énorme chantier parce que c'est là où il y a le pouvoir opérationnel. Et c'est là où les femmes vraiment retroussent les manches et agissent et peuvent aider d'autres femmes à venir à leur côté. Beaucoup plus que ces hommes. D'ailleurs, on le voit dans des entreprises où il y a des femmes dans les COMEX, il y a beaucoup plus de femmes qui accèdent à des fonctions dirigeantes. C'est normal. On trouve aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, une sororité entre les femmes qui était nécessaire et qui se met en place et qui va contribuer à faire en sorte qu'on ait des équipes mixtes à tous les niveaux.
Est-ce que vous pensez que les quotas vont être nécessaires pour féminiser tous ces COMEX?
Indispensable. Indispensable. On gagne un siècle, on le sait, que ce soit avec les quotas dans les conseils d'administration. Alors, c'est un sujet de controverse. Moi, j'entends beaucoup de dirigeants dans des sociétés très masculines, hein, dans les secteurs industriels, qui me disent c'est très facile pour L'Oréal de féminiser son COMEX, c'est très facile pour les labos pharmaceutiques de féminiser leur COMEX, mais pour nous, qui sommes une armée d'hommes ingénieurs et on ne trouve pas une femme d'ingénieur, comment va-t-on faire ? Eh bien, ce à quoi je leur réponds, d'abord, il y a moins de femmes d'ingénieurs, mais il y en a. Et puis moi, j'en rencontre beaucoup qui ont 50 ans, qui ne sont plus appelées. Elles ont perdu leur job parce qu'à un moment donné, il y a eu une fusion et qu'il y avait un fauteuil pour deux personnes. Et après, dans ce pays de jeunisme, qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, hein, le jeunisme, mais si elles ont eu la malchance de perdre leur job à 50 ans, il est rare qu'elles soient appelées ensuite à des fonctions opérationnelles. Donc elles deviennent coach, elles deviennent manager de transition, elles créent des entreprises. Mais, et ces femmes-là ont des track records qui peuvent intéresser ces entreprises qui n'ont de toute façon pas les femmes. Donc autant les prendre à l'extérieur à ce moment-là et les faire rapidement monter en compétences, sachant qu'à 50 ans, on n'est pas vieille, 9,55, les enfants sont grands, elles sont disponibles. Et moi, je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi cette population-là est laissée pour compte.
Donc là aussi, vous les aidez à retrouver le chemin de l'entreprise, à retrouver des postes d'encadrement ou de gouvernance.
Bien sûr, on essaye, on parle d'elles. Et doucement, ça vient, ça mûrit. Et moi, je vois des hommes, quelquefois en début d'entretien, très sceptiques par rapport à la présence de femmes dans le conseil d'administration, par exemple. Et à partir du moment où je leur montre des CV de femmes qui pourraient correspondre à leur cahier des charges, alors là, ils ont les yeux écarquillés, la mâchoire qui tombe, et ils disent « mais ces femmes-là dans mon board, mais ça serait génial !» Parce qu'ils n'ont pas encore réalisé la qualité des femmes qui pourraient rejoindre leurs instances de gouvernance et tout le bien qu'elles pourraient apporter, toute la performance. Et là, quand ils connectent ça, il n'y a plus du tout de tabou, de frein, de biais pour ne pas les accueillir.
Alors, est-ce que les femmes se forment toujours pour arriver à ces postes de gouvernance, plus que les hommes ?
Oui. Moi, j'ai une formation de gouvernance dans mon cabinet. Je peux vous dire que je n'ai que des femmes qui s'inscrivent. Et je connais un peu...
Ce ne sont pas des formations très mixtes, alors?
Non, ben non. Mais pourtant, Dieu sait si ces messieurs sont les bienvenus. Puis, il y a des formations qui existent, qui sont réservées aux femmes aussi. Ça, c'est des positionnements des écoles. Mais on ne s'improvise pas administrateur. Il y a des connaissances qui peuvent être un peu anciennes par rapport à la finance, par exemple, qu'il faut aller rafraîchir un petit peu. Et puis, nous, au-delà d'un programme usuel qu'on va trouver dans toutes les formations, on a beaucoup insisté sur le savoir-être, la posture.
Les soft skills.
Les soft skills, qui sont très, très importants. Vous arrivez dans un board, souvent vous êtes la seule femme, vous avez... une minute ou deux pour vous présenter, vous allez juger immédiatement sur ces deux minutes. Donc, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Et donc, là, il y a peut-être des personnes qui vont s'excuser d'exister parce qu'elles vont être trop dans leur féminin ou au contraire vouloir tout révolutionner. Bien, peut-être que la bonne posture est à la croisée de ce chemin du yin et du yang et que là, il y a besoin de conseils utiles en termes de soft skills, justement.
Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner en quelques points à une femme qui voudrait devenir administratrice ?
Eh bien, c'est, si vraiment elle sait par rapport au sujet qui va être traité dans un conseil d'administration, si elle sent qu'elle a des lacunes sur certains thèmes, oui, faire une formation, ça ne fait jamais de mal. Ensuite, il faut qu'elle ait confiance en elle. Il faut qu'elle ait l'audace de s'exprimer, même si elle est seule. Moi, j'entends beaucoup de femmes qui me disent, dès qu'on est deux ou trois, ça va mieux, c'est plus fluide, on se soutient entre nous. Celles qui ont des difficultés sont celles qui sont seules. Là, il faut espérer que, parce que si on arrive aux 40%, elles ne vont pas être seules trop longtemps. Travailler leur sujet, j'ai même pas envie d'en parler parce qu'elles le travaillent d'office. Elles arrivent et elles sont d'ailleurs moteurs pour certains hommes. Alors, je ne veux pas dire par là que les hommes ne travaillent pas, loin de là, ils travaillent. Et d'ailleurs, maintenant, les conseils d'administration sont devenus beaucoup plus rigoureux parce que la société bouge très très vite, que les sujets sont multiples, qu'il y a toute cette transformation à laquelle nous assistons, et que le lundi, on va agir comme ça, et trois mois après, on va agir différemment. Tout va très, très vite. Et là, les hommes aussi courent derrière les informations, puis les solutions apportées. Là, on va arriver en post-Covid, il faut l'espérer. Il ne faut surtout pas que les femmes soient exclues des cercles de décision qui vont apparaître pour sortir de cette crise. Et ça, on le voit arriver, puisqu'il n'y a pas de femmes dans les COMEX. Que ça va encore être un monde d'hommes qui va solutionner, avec des réflexions bien masculines, ce monde nouveau attendu. Et nous, on prône, quand je dis nous, c'est l'association que je porte, International Women's Forum, on en parlera tout à l'heure, les Assises de la Parité, on va en parler tout à l'heure aussi. S'il n'y a pas de femmes dans les COMEX, il faut qu'il y ait des femmes à l'entrée, comme des shadow COMEX, qui vont nourrir la réflexion de ces COMEX, parce qu'elles vont apporter des idées nouvelles.
Ça fait partie également du travail que vous pouvez mener à travers ce réseau féminin international Women's Forum.
Oui, alors ce réseau est arrivé dans ma vie il y a 4 ans. Et il y a eu un formidable alignement des planètes, puisque moi j'étais là en train d'exprimer haut et fort à travers des interviews comme je le fais aujourd'hui, parce qu'on n'était pas nombreuses à le faire, le fait que j'avais justement toutes ces femmes pour les boards. Mais toutes les femmes que j'avais étaient des femmes françaises qui avaient des parcours à l'international pour beaucoup d'entre elles. Mais si on me demandait une portugaise, une brésilienne, une anglaise ou une italienne, il fallait que je lance une chasse comme mes confrères, et je n'avais pas en claquant des doigts dans mes dossiers. Et j'étais là à me dire, mais comment vais-je faire pour rallier à ce que nous sommes en train de faire, toutes ces femmes étrangères. Et à ce moment-là, le réseau International Women's Forum, qui est un réseau américain, qui rassemble 7000 femmes dans de très nombreux pays, en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde, a entendu parler de mon militantisme, des actions, et se dit, waouh, la petite Frenchie, là, elle pourrait nous créer un formidable réseau féminin en France où nous ne sommes pas. Et donc, ils m'ont contacté. Ça a été 4 mois de palabre, parce que les Américains, c'est jamais rapide. Et banco. Ils m'ont dit, vous allez... Moi, je n'avais jamais créé l'association de ma vie. Donc, c'était vraiment une grande aventure, aidée par un COMEX formidable. Et ensuite, par des membres qui se sont impliqués. Et aujourd'hui, c'est 200 membres. On n'est pas là à viser absolument la quantité, mais la qualité. Deux femmes influentes, inscrites elles-mêmes dans une grande diversité. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes corporettes, mais des artistes, des philosophes, des écrivains, parce que c'est la richesse de tous ces talents qui font la qualité de nos rencontres. Et surtout, pourquoi des femmes influentes? Pas par snobisme, mais parce que ces femmes-là peuvent aider toutes les femmes en verticale. Et c'est ce que nous nous employons à faire. Et là, nous sommes à quelques jours des Assises de la Parité, qui est donc... C'est une volonté de vouloir créer... de ne pas être dans l'entre-soi, déjà, et de créer un événement qui va rassembler des hommes et des femmes. Et moi, je suis vraiment très attachée au fait d'atteindre une parité avec le soutien et l'appui des hommes. Parce que je suis convaincue que nous, les femmes sans les hommes, nous n'arriverons à rien, et que les femmes, les hommes tout seuls, n'iront nulle part sans les femmes. Donc il est grand temps de faire ensemble, pour toutes les bonnes raisons que l'on connaît, et en numéro un, la performance. Voilà. Et donc cet événement a lieu très prochainement, et c'est une seconde session où en première session c'était un pari fou justement que d'avoir dans la salle, c'était la salle Pléiade à l'époque, de la remplir avec autant d'hommes que de femmes, puisque souvent dans ces événements de gender equality on voit que sur scène il y a que des femmes, et dans la salle il y a que des femmes. Alors ça avait le don de m'énerver, parce que nous, nous n'avons pas besoin d'être convaincus. Et là, je me suis dit, on va faire un événement où ces messieurs vont venir. Et non seulement ils vont venir, mais on va les impliquer. Et puis, c'est eux qui vont porter notre cause. Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils travaillent avec des femmes, ils ont des épouses, ils ont des filles. Et ils sont, convaincus de la société.
Alors, est-ce qu'ils sont convaincus ou est-ce qu'ils se sont obligés, finalement?
Il y a les
vous
deux.
Qui les rencontrez.
Ouais. Alors, il y a les deux. Il y en a qui sont totalement convaincus. Et là, il n'y a pas de débat. Mais peut-être qu'ils ont eu des mamans qui ont fait les choses bien et qui n'ont pas toujours dit à leur fils « Tu es la huitième merveille du monde et tu n'as le droit de rien faire à la maison. » Ça démarre là, au niveau de l'éducation. Et les mères ont une immense responsabilité à ce niveau-là que de responsabiliser leurs petits garçons à respecter les femmes et à aider à toutes les tâches ménagères que l'on peut avoir dans une famille.
Qu'est-ce que vous allez mettre en avant durant ces assises de la parité ?
Alors, on va mettre en avant déjà, on va parler des COMEX, de la place des femmes dans les COMEX. Et là, ça, c'est une table ronde très importante avec les institutionnels et des politiques. Et on va certainement avoir autour de la table, et je l'espère, comme un contre-pouvoir, des gens pour et des gens contre. Et ça va être intéressant de voir, non pas qui l'emporte, mais voir vers quelle solution on pourrait aller pour que ces quotas dans les COMEX puissent être appliqués. Alors, peut-être que ça va être dans certains secteurs plus lentement. Peut-être que, mais en tout cas, il va y avoir un vrai sujet autour de ça. Et j'espère des solutions qui vont être trouvées, en tout cas des idées qui vont émerger. Il va y avoir une place pour les femmes entrepreneurs aussi, puisqu'on va pouvoir comme ça vraiment exprimer le fait qu'à tort, les femmes entrepreneurs ont beaucoup plus de difficultés que les hommes à lever de l'argent, alors que celles qui ont réussi à obtenir des fonds ont des résultats spectaculaires et très bons. Donc pourquoi est-ce que cette peur auprès des fonds d'investissement perdure ? Ça, on va peut-être mieux le comprendre ce jour-là. Il va y avoir des tables rondes au niveau de la culture. Parce que dans le monde de la culture, pareil, il y a des inégalités énormes qui vont là être montrées du doigt et on va pouvoir identifier des choses pertinentes. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que je suis en train de dire par rapport à la culture, où ce jour-là, et j'en suis ravie parce que c'est, je crois, une grande première, on va juxtaposer dans un événement très corporate le monde des artistes. Et comment ça va se passer? Eh bien, entre toutes les tables rondes, de très nombreuses tables rondes, il va y avoir un duo de chanteurs qui va chanter en honneur de ces artistes qui sont eux aussi et elles aussi assujettis aux inégalités. Si on prend le monde de la chanson, il y a aujourd'hui 80% de chanteurs et 20% de chanteuses. Et on sait que les chanteuses sont beaucoup moins bien payées que les chanteurs. Et alors, on va aussi mettre en avant, parce qu'il va y avoir un concert à la fin des assises, à la mairie de Paris, où Anne Hidalgo a la gentillesse de nous accueillir, un concert où on va avoir sur scène, évidemment des chanteurs et des musiciens, mais aussi des sculptures et des peintures et des photos, parce qu'on veut allier tous les arts pour bien identifier le fait que, d'abord, dans ce monde de la culture, c'est très compliqué pour les femmes d'émerger. Dans le monde des journalistes, vous le savez mieux que moi. Dans le monde des peintres, dans le monde du cinéma et dans le monde du théâtre, enfin partout. Donc on est là ce jour-là pour penser à ces artistes qui ont horriblement souffert du Covid. En plus, il n'y a plus une salle d'ouvert, plus un théâtre, plus une salle de cinéma. Enfin, c'était l'horreur. Donc au moment où on va vraiment réfléchir à des solutions d'égalité pour le monde des entreprises, il était bien sûr essentiel qu'on puisse avoir ces artistes autour de nous qui vont s'exprimer, qui vont chanter, qui vont montrer leurs œuvres. Et ça, c'est merveilleux et c'est quelque chose qui me fait immensément plaisir.
L'intérêt de ces assises, c'est d'être un laboratoire d'idées, c'est quoi
C'est un rassemblement de dirigeants et de dirigeantes qui sont pour la parité et qui ont en acceptant de venir, ont signé une charte qui va les embarquer tout au long de l'année dans une série de mises en œuvre d'actions qui vont vraiment les aider à atteindre cette parité.
Vous en avez fait un business, mais vous êtes plus une militante, une féministe qu'une businesswoman ?
Je trouve ça en même temps. Alors, j'aime pas trop le terme de féministe. Je ne sais pas pourquoi. Je préfère le terme de femme engagée. C'est vrai que j'ai trouvé mon chemin de vie en m'occupant des femmes. Mais vraiment par hasard, puisque ça a été au départ vraiment un souhait de mettre une offre additionnelle qui allait aider les entreprises, aider notre cabinet voilà, à agir sur des causes justes. Mais c'est vraiment au contact de ces femmes que je suis devenue engagée. Et que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est devenu un chemin de vie qui me surprend moi-même, mais que j'adore, et je me suis fait des amis formidables, et la présidence de cette association est une merveilleuse expérience.
Et qu'est-ce que vous pensez des générations aujourd'hui de féministes, justement, qui se sont un petit peu radicalisées?
Alors moi, dès que c'est radicalisé, j'aime pas. Dès qu'on part dans les extrêmes, là j'ai un blocage net, mais tout sujet confondu. Je pense qu'on, dès qu'on est dans l'excès, on sort de la mesure et on n'est pas dans un raisonnement intelligent. Et je combats tous les excès. Et d'ailleurs, moi je détesterais une société composée uniquement de femmes. Je vais jusqu'au bout de ce que je prône, à savoir, il faut des hommes et des femmes dans tout ce qu'on entreprend, dans tous les sujets qui vont être abordés, et tout ce qui est radical me hérisse le poil, et c'est très compliqué de discuter. J'ai essayé avec des personnes qui ont comme ça, qui sont dans des pensées qui sont unilatérales, et on peut pas. Vous savez, c'est ce qu'on dit aussi hein, dans les évangiles, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc c'est dommage, il y a un moment donné où ces excès vont annihiler l'intelligence.
Une femme présidente de la République.
J'en rêve. Regardez les pays qui se sont très très bien sortis de la crise du Covid. Ce sont des pays où c'était des femmes dirigeantes. Et c'est vrai que on aimerait davantage de candidates pour nos prochaines élections. Le nom de Christine Lagarde a pu revenir assez souvent. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle sera candidate parce que là où elle est très bien, mais elle est l'exemple vivant qu'une femme peut très bien. Regardez Angela Merkel quand même. Là, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas mené l'Allemagne à une économie quand même plutôt robuste. On a des cas comme ça autour de nous. Et moi, je pense qu'au niveau écologique, vous savez, on parle souvent de la terre-mère. Je pense, alors là, vraiment, je suis convaincue de ce que je vais vous dire. Je pense que nous, les femmes, on a une approche extrêmement maternelle avec notre planète. Et je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer pour la préserver. Et que le jour où on aura une femme présidente, elle sera vraiment habitée par l'importance des gestes de tous les jours que l'on peut faire pour améliorer cette planète Terre qui est exceptionnelle de beauté et qu'on est en train d'abîmer de façon magistrale. Bon, cela dit, il y a des efforts qui sont entrepris, mais on est loin, 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 loin de ce qu'on peut faire.
C'est votre nouveau combat.
Ah non, mais je peux pas tous les suivre mais, et les avoir. Et qui suis-je pour pouvoir prétendre à ça mais c'est un travail d'équipe, de toute façon. Mais je vois là avec les femmes, et je vois votre sourire, ça me fait plaisir, ce qu'on est en train d'apporter avec les Assises et dans cette association International Women's Forum. C'est un mot qui est aussi galvaudé, mais là, il est vrai, il est porteur de sens, c'est la bienveillance. Et c'est vrai qu'il faut de la bienveillance dans le monde de l'entreprise, mais partout. On est là pour peu de temps, on peut tous mourir demain. Et il faut, je le sais, moi j'ai perdu mon mari il y a un an, donc je sais ce que c'est que de voir quelqu'un que vous aimez disparaître rapidement et de façon subite. On est là pour si peu de temps, donc... Et c'est quand même sympa de pouvoir se retourner sur sa vie le jour où la fin arrive et de se dire, un, on a fait des choses bien, et sans avoir eu des engagements et des actions énormes, se dire qu'on peut se regarder dans la glace et être en phase avec avec ce qu'on a pu commettre voilà, comme acte et être en adéquation et en accord. Et je crois que ça, c'est très important. Maintenant, vous avez des êtres, voilà. Et c'est ce qui fait la complexité de l'individu, qui vont faire des choses atroces et qui n'ont absolument aucun problème pour être en accord avec sa conscience. Bon, ça, je ne sais pas comment ils font, mais bon, on a peut-être et sûrement plusieurs vies et qu'on n'est pas tous au même stade, mais là, c'est un autre débat plus spirituel.
Nous allons nous arrêter alors sur ces mots, la bienveillance. Merci, oui. Lucile Desjonquières, pour cet entretien.
Ben, je vous en prie, merci de m'avoir écouté.
Merci à David Führer pour la réalisation et à Jean-François Montpas pour le mixage de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, surtout n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Le podcast Experte à la Une est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Je compte sur vous.